Parce que bah, il utilise vraiment le mode graphique, le mode zéro, donc avec une pente un peu particulière que les autres machines ne pouvaient pas vraiment faire facilement. Quoi.
Donc ce dernier jeu, c'était quoi, une sorte de shoot'em up, ce que tu dis,
I Want Counter, ouais, c'était une sorte de shoot'em up, mais c'était un peu plus compliqué que ça, parce que c'est un shoot, mais il faut prendre son temps, il faut aussi savoir plus ou moins ce qui va se passer. Il y a des pseudo-énigmes, parce qu'il y a des endroits, il faut arriver à utiliser la pyramide pour bloquer des adversaires, des trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment un très bon jeu.
Vous peut-être des trous sur une route, non?
Non, vous n'avez pas pensé à mettre des trous. Tiens. Par contre, il y avait des endroits où il y avait des flammes qui sortaient du sol. Tu avais des espèces de boules aussi. Dès que tu les touchais, tu mourais. Enfin bon, le concept était vraiment bien foutu sur celui-là. Donc ça, c'est les premiers jeux que j'ai eus. Donc ce n'étaient pas forcément les plus mauvais. Puis après, bon, bah, ils ont sorti un paquet impressionnant de jeux. Beaucoup de portages d'arcade, comme ce qu'ils faisaient à l'époque, hein, c'est ce qu'ils se vendaient. Il y a aussi eu, c'était la machine à un moment, on va dire 86 jusqu'à 87, 88, où c'était la machine pour les jeux d'aventure français, quoi. Donc il y a beaucoup de jeux qui sont sortis, des classiques style SRAM, Le Passager du Temps, Exit, des choses comme ça, quoi. Avec des jeux, c'est aussi le jeu où il y avait le jeu de 85 de la mort qui était Orphée, quoi. Donc
c'est un jeu d'aventure.
Ouais, c'est pareil, c'est un jeu d'aventure avec des digits qui est pas forcément, qui est quand même très typé aventure de ces années-là où en gros tu vas au nord, paf, t'es mort quoi. Ah bon, bah
ah oui, c'était
c'était.
D'accord. Ouais.
Avec un scénario pas forcément facile. Enfin bon, c'était le genre de jeu où il fallait vraiment être fan de jeux d'aventure pour arriver à avancer et puis éventuellement arriver à la fin, mais. C'était pas forcément très facile d'accès, mais bon, c'était un truc, le machin il parlait, il y avait des graphismes et tout, enfin c'était impressionnant quand même pour l'époque quoi. Sur disquette en plus. Donc,
oui voilà, c'était voilà. Sur disquette. Mais est-ce que on n'était pas sur les cassettes?
Les jeux dont j'ai parlé, ils existaient sur cassette et disquette.
D'accord.
Mais avec un 400. Enfin, c'était vraiment des jeux qui marchaient. Moi j'ai eu un 6128.
D'accord.
Mais ils marchaient sur 464. Ces jeux-là, ils exploitaient pas le fait d'avoir plus de mémoire.
D'accord.
Et. Ça, j'en ai pas parlé, mais le 6128, alors il n'y a pas que le fait d'avoir un support de masse différent. Ils avaient quand même fait quelques petits rajouts, corrections de bugs sur le basique. On était passé d'un basique 1.0 sur le 1.1. Et le 6128, comme son nom l'indique, c'était la mode de 128 kg pour tout le monde, donc ils avaient mis 128 kg.
Ah, et c'est pour ça d'où le 128.
Voilà. Et alors, avantage, c'est que. Les machines à lecteur de disquettes en fait, elles pouvaient faire tourner un système d'exploitation qui s'appelait CPM, donc qui était le système du début des années 80, on va dire. Quand c'est sorti sur Amstrad, c'était déjà plus ou moins en perte de vitesse, hein, c'était en train de se faire bouffer par le MS-DOS sur les PC, quoi, qui n'était pas forcément mieux d'ailleurs, mais bon. Et donc sur les 464, on avait la version CPM 2.2, parce qu'il y avait 64 kg de mémoire, et sur le 6128, avec 128 kg, tu avais un CPM 3.0 qui permettait de faire tourner des logiciels un petit peu plus gros. Et donc l'Amstrad, ça a été une machine de joueur, une machine d'apprentissage à la programmation, mais ça paraît peut-être un peu étrange quand même, ça a aussi été une machine qui a été utilisée professionnellement par des petites entreprises
D'accord, ouais.
Ou dans des usages assez variés. C'était encore une époque où on n'achetait pas forcément un PC pour faire du pro. Quoi.
D'accord.
Et alors, anecdote à deux balles, quand j'ai fait mon service militaire en 1992 ou 93, la machine qui servait à saisir les informations des appelés, c'était un CPC.
C'est marrant, ça.
Alors là, tout de suite, j'ai eu une autre vision de l'armée. Je me suis dit, finalement, c'est pas si mauvais.
T'étais
j'ai pas réussi à récupérer le logiciel qu'ils utilisaient parce que je pense que ça devait être collector. C'est un truc qui avait dû être bricolé par un appelé à un moment, quoi, mais c'était excellent, quoi. Et voilà, bon, quand tu regardais un peu les revues de l'époque, il y avait des CPC qui étaient utilisés pour des trucs, vraiment pas pour bricoler ou pour jouer, quoi.
Et par contre, il y a alors, je ne sais pas si ça, tu l'as vu, mais il y avait le. Alors, je n'ai plus le nom exact. Donc, c'est un PC, en fait, un Amstrad.
Ah, c'est après ça, oui, un Amstrad avec une Mega Drive à l'intérieur. Ouais,
je
ne
sais
plus
le nom, mais.
Le Mega PC, ça
voilà,
s'appelle.
Voilà, le Mega PC, parce que Mega Drive,
ouais.
Je pense. Et alors, ça, donc, ça, c'est. Est-ce que tu as pu tâter un peu, voir à quoi ça ressemblait? Est-ce que
non,
ça
non.
Un truc un peu.
Ah, bah, c'était un PC avec une Mega Drive à l'intérieur, et en fait, ça partageait que l'écran, quoi.
D'accord.
Le concept, je suis pas sûr que ça se soit beaucoup vendu.
Oui.
Parce qu'à la limite, c'était aussi pas forcément moins cher qu'un PC et qu'une Mega Drive à côté à l'époque, quoi. Et bon, ouais, mais bon, c'est une époque où ils étaient déjà, effectivement, Amstrad était en perte de vitesse. Et,
Peut-être ils se sont dit, on va tenter quelque chose de. Non,
oui, pas, oui, bah, l'idée n'était pas forcément. Enfin, c'était un peu étrange, finalement, parce que c'était complètement à l'inverse de leur concept de base où l'Amstrad. Enfin, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les micros de l'époque, quand c'est sorti, il y en avait pas mal où tu branchais sur une prise pareille télévision sur la télé familiale.
Oui.
Donc l'Amstrad, ça arrive, bah voilà, tiens, tac, tu peux jouer, t'as plus besoin d'embêter les parents, tu peux te mettre dans ta chambre.
Vous voulez faire un peu
comme là, c'est papa, il achète un ordinateur et tu vas lui piquer pour faire la Mega Drive. Donc je pense que ça a pas démarché.
Ils se sont trompés là-dessus.
Bah, je pense que c'était bien si c'était j'achète un ordinateur pour à la fois jouer et bricoler. Mais ouais, en fait ça s'est pas vraiment vendu. Et puis surtout au niveau prix, il n'était pas forcément super bon marché, je pense.
Oui, il n'était pas très. Je crois de mémoire, c'était pas donné. Ouais, c'est vrai que
c'était. Après, c'était pas un mauvais PC. Enfin, c'était un PC, ça va être un 386 SX20, un truc comme ça. Mais je pense qu'à l'époque, tu arrivais à trouver un PC d'un côté et la Mega Drive de l'autre pour le même prix, voire moins cher.
Oui.
Après, il y avait l'avantage, entre guillemets, d'avoir l'écran, mais enfin pour moi, ça n'en était plus hein, à ce moment-là.
Donc en fait pour toi
c'est assez bizarre quoi.
L'âge d'or d'Amstrad que sur le micro.
Ah bah l'âge d'or c'est de la sorte c'est la période du CPC 6128. Quoi.
Voilà c'était là
ils ont sorti des palettes ils étaient continuellement au cours de stock quoi.
D'accord.
C'était impressionnant quoi. Et il y avait une autre anecdote qui était sortie d'ailleurs qui était assez rigolote je sais plus dans quelle revue. Non, c'était pas Evolution, c'était après une revue Amstrad, je crois, pour le coup. En fait, il y avait eu un cambriolage chez un éditeur français qui était Loriciel à Paris, et ils s'étaient fait piquer. Alors, ils avaient plein de trucs, hein. Ils avaient du CPC, de l'Amiga, de l'Atari, ils avaient piqué quoi ? Ils avaient piqué les CPC, quoi. Ils avaient pas piqué les ASBIT.
Donc, ça veut dire c'était le truc.
C'était la machine que tout le monde avait, pas forcément la meilleure, mais c'est la machine où tu pouvais t'échanger à l'école facilement des jeux, des trucs, des machins. C'est celle que tout le monde avait, quoi.
Et justement, pour en venir à ce que tu parles, donc, avec les cassettes et les disquettes, au niveau capacité, tu passais à quoi ? x2, x3
Alors, c'était pas tellement une question de capacité, c'est une question de temps de chargement. Effectivement, le lecteur des Amstrad, il est assez particulier, en fait. C'est un format qu'on retrouve que sur quelques autres machines plus exotiques. Alors typiquement, les Oric, ils avaient ce type de lecteur, c'est ce qu'on appelle des lecteurs 3 pouces, donc c'est des disquettes qui sont différentes des 5 1/4 et des 3,5, qui sont vraiment rectangulaires, qui sont assez costauds, et qui sont sortis en même temps que les 3 pouces et demi, et au final, c'est les 3 pouces et demi qui ont gagné, quoi, hein. C'est toujours le même truc.
C'est
quand
tu as le VHS, le V2000,
voilà. T'as plusieurs formats qui sortent plus ou moins en même temps, puis il y en a un, pour une raison, des fois, tu comprends pas trop, parce que ça a été choisi par un fabricant. C'est ça qui a gagné quoi. Et donc sur Amstrad on a eu des 3 pouces et donc c'est sorti aussi sur des Oric. Ils avaient des lecteurs Oric et pour revenir sur le prix des lecteurs, un Oric ça valait à plus ou moins au milieu de sa carrière 2000 balles, le lecteur il en valait 3000-3500 quoi. Donc ça calmait tout de suite.
Ouais.
Et donc c'est l'Amstrad qui a vraiment popularisé le format et ça a été aussi vendu sur une machine qui est sympa mais qui s'est pas du tout vendue en France, qui était le Tatung Einstein, qui était un truc sympa aussi. Ça ressemblait pas mal à des MSX finalement. Et cette machine-là était directement vendue avec un ou deux lecteurs 3 pouces intégrés. Quoi. Donc du coup, elle était assez chère même. Et donc ce format-là, ouais, c'est pas un format de disquette avec une capacité énorme, parce qu'en gros, tu mettais 178 kg de données sur un formatage standard, par face, donc il y avait deux faces. Donc le lecteur, il n'y avait qu'une seule tête de lecture. Mais par rapport à la machine, bon, on va dire que c'était largement suffisant. Hein. Les jeux standards, ils ne remplissaient pas du tout la disquette. Quoi. Après, les jeux d'aventure, oui, on en a quelques-uns qui tenaient sur deux disquettes, hein, mais c'était relativement adapté. Et surtout, c'était un lecteur qui était assez rapide. Donc, quand on connaît, par exemple, le lecteur sur les Commodore 64, qui était d'une lenteur assez
catastrophique. C'est ce que tu m'as dit, voilà, il y avait certains lecteurs qui avaient des soucis de.
Oui, ça c'est lecteur de cassette, mais oui. Lecteur de disquette, c'était plus ou moins rapide. Et franchement, l'Amstrad, moi après, comme je suis un. Enfin, j'ai acheté pas mal de machines ou récupéré des machines sur des vide-greniers dans les années 2000 parce que je voulais voir un peu ce que c'était. Quoi. C'est une époque où le rétro gaming, c'était pas forcément à la mode, donc t'avais pas forcément beaucoup de contacts. Internet n'était pas encore super développé. La mode des émulateurs commençait déjà à sortir, mais il n'y avait pas forcément de convention comme ça, ou du moins j'étais pas au courant. Et donc je récupérais des machines pour voir ce que tu pouvais faire avec, quoi.
D'accord.
Donc du coup j'avais récupéré des Thomson, des TO-8, des MSX, des trucs comme ça, MSX2. Et à chaque fois, je trouvais que le lecteur, c'était super long, quoi. À côté de l'Amstrad, tu faisais 4, pouf, tac, bidou, l'autre, voilà, tu faisais 4, t'attendais.
Un café, tu
en pas, non, pas à ce point-là, mais oui. c'était pas très rapide, quoi. Bon, d'accord, après, oui. C'était des DOS Microsoft, alors ça explique peut-être, hein, mais... voilà, donc c'était un truc intéressant. Et le 464, donc, qui était une machine cassette au départ, tu pouvais acheter un lecteur de disquette... que tu connectais dessus.
D'accord, donc tu mettais
quel fameux lecteur DDI1. Alors c'était un peu particulier, c'est que tu avais une interface déjà. Le contrôleur disquette, il n'était pas natif dans la machine, donc il y avait une carte que tu branchais à l'arrière sur un port d'extension. Ça avait été prévu quand même, hein, et le lecteur à côté.
D'accord.
Et tu pouvais en brancher deux comme ça. Normalement, la machine de base, tu avais deux lecteurs. Donc il y a eu pas mal de hardware aussi qui a été créé à cette époque-là. Notamment des lecteurs avec des lecteurs 5 pouces 1 quart, des 3,5. Parce qu'il y a eu, dans les années 86, je crois, même avant, il y a eu une pénurie de disquettes 3 pouces, en fait.
Ah, ça, d'accord.
Bah, comme ça ne se vendait pas trop, c'était en fait le format initial, je crois que c'est Hitachi qui les avait créés, ils n'en produisaient pas des masses, quoi. Donc du coup, les disquettes, elles valaient super cher, elles valaient 40 francs l'unité, alors que les autres, t'achetais 10 disquettes, 5 pouces 1 quart pour le même prix, quoi. J'exagère un petit peu, mais c'était un peu ça. Et puis surtout, il n'y en avait pas, quoi. Il y avait carrément des pénuries, quoi. Les mecs, en Angleterre, ils recevaient des... Bah, c'est aussi pour ça qu'en Angleterre, c'est assez rigolo, c'est qu'il n'y a pas forcément eu des ventes énormes de 6128 par rapport à la France. C'est que les mecs, ils trouvaient pas de disquettes, donc ils gardaient le 464 à cassette, et puis quand ils voyaient les prix, ils gardaient ça, quoi. Et oui, il y a eu une bonne pénurie pendant un bon moment, à tel point qu'il y a d'autres marques, style Tatung, qui vendaient des disquettes aussi 3 pouces, en disant « Ouais, nous, on en a, on peut vous en vendre, même pour des Amstrad, voilà. » Et pareil, tu vois dans les journaux des articles, il y a notamment une photo, tu vois un des mecs, un PDG d'Amstrad, machin, le gars, il est assis sur un tas de boîtes, c'est des disquettes qui arrivent du Japon, ça y est, on est sauvés, quoi. Mais oui, oui. Ça veut dire aussi que ça a vraiment bien marché et finalement ça le format 3 pouces qui aurait dû disparaître en 86, il a duré aussi jusqu'en 91, 92 grâce au CPC, quoi. Il n'y a pas eu d'autres machines après qui s'est mis à faire ce format-là. Sauf bizarrement les Spectrum plus 3 de chez Sinclair, parce que ça avait été racheté par Amstrad, quoi. Donc du coup, ils ont fait un Sinclair à la méthode CPC, hein, c'est le Spectrum plus 2. Où ils ont repris la même logique, donc lecteur de disquette de cassette intégré, et après ils ont fait aussi un lecteur de disquette intégré.
D'accord, ok.
Pour en finir, on peut dire quand même que la communauté Amstrad, même s'il n'y a plus énormément de monde, elle est encore active, il y a pas mal de jeux qui sortent depuis quelques années, y compris sur des formats physiques, et qu'en 2019, il y en a un qui a entendu comme le loup blanc, c'est une conversion de Pinball Dreams, donc c'est un flipper Amiga là, qui est adapté par des Espagnols qui sont très connus, qui s'appelle le Batman Group, qui a fait une super démo il y a déjà quelques années, et là ils font un flipper qui est vraiment impressionnant.
Ça va faire mal, quoi.
Ouais. Il y a déjà une preview qui est sortie il y a 2 ans pratiquement, ils ont pris leur temps pour le faire, qui était déjà vraiment super chouette, et franchement, là ils utilisent vraiment bien la machine, quoi. C'est l'intérêt d'être démon maker et aussi d'avoir après du renfort pour faire un jeu, quoi.
Et toi, par contre, tu peux maintenant programmer un peu ou...
Programmation, j'en ai toujours fait, moi.
D'accord.
Mais au début, comme tout le monde, j'ai fait du basique. Et puis après, je suis passé un petit peu à l'assembleur pour voir ce que c'était, en partie parce que j'ai un lourd passé, on va dire, de déplombeur aussi. Je faisais beaucoup de transferts de cassettes vers disquettes, des choses comme ça, quoi. En partie pour ce qu'on disait tout à l'heure, le prix de la disquette était super cher, donc t'achetais le jeu cassette et puis tu le transférais.
Voilà, c'est ça.
Et puis aussi, parce que moi, j'étais entre guillemets spécialisé dans ce qu'on appelait les budgets. Donc c'était des logiciels anglais, vendus pas cher là-bas, mais qui étaient disponibles que sur cassette.
D'accord.
Donc si tu les voulais sur disquette, t'avais pas le choix, il fallait les transférer.
Faire les transferts, d'accord.
Voilà. Puis après, j'ai fait un peu de démo, mais bon, là, j'ai jamais été vraiment... dans le coup, on va dire, à ce niveau-là, quoi. J'avais pas forcément beaucoup d'idées. Et j'ai fait des utilitaires aussi, dont un qui est relativement connu, qui est encore à ma grande surprise utilisé, qui s'appelle Multimark ou Mark Error.
Donc en fait, si on tape ça sur Internet,
Tu vas trouver. Un site qui recense. Il y a deux sites Amstrad en fait où il y a quasiment tout ce qui a été fait. Il y a un site qui s'appelle CPC Power.
D'accord.
Et il y en a un autre qui s'appelle CPC Rules. Donc là, sur CPC Rules, il y a des forums, des trucs comme ça, mais de ce point de vue-là, on est relativement mauvais. Il n'y a pas forcément un vrai gros forum fédérateur français, tout du moins.
D'accord.
T'en as un en anglais, je ne sais plus si il est anglais, non, je crois que c'est en Allemagne, mais qui est en anglais, quoi, qui s'appelle CPC Wiki, où là, il y a pas mal de monde, et là où tu vois vraiment la scène internationale, quoi.
D'accord. Ouais.
Tu vas trouver des développeurs allemands, australiens, anglais, machin. Donc c'est plutôt là où tu vois finalement ce qui se passe sur la scène Amstrad. En France, les forums,
ouais, c'est pas très.
C'est toujours un peu les mêmes, et puis c'est pas forcément les gens les plus actifs en termes de développement de nouveaux jeux, nouvelles démos, quoi.
Par contre, si on tape Tom et Jerry, c'est quand même.
Ouais.
D'accord.
Oui, j'ai un site moi parce que je faisais partie d'un groupe, mais bon, ça fait bien longtemps que je suis plus tout seul. Qui s'appelait le GPA.
D'accord.
Qui a fait pas mal de démos au début de la vie de l'Amstrad, on va dire plutôt 6128. Et moi j'ai continué, hein, les autres sont passés à autre chose, j'ai fait principalement des utilitaires, j'ai fait aussi quelques petits jeux, et les derniers gros projets auxquels j'ai participé, j'ai fait une démo aussi sur une méga démo, on va dire, commémorative Amstrad, qui s'appelle 30 Years, je crois, ou CPC ou un truc comme ça. Alors la démo, je pense, est la plus mauvaise de celle du truc, mais enfin bon. Comme d'habitude, moi je l'ai donné à peu près en temps et en heure, alors que les autres ils ont mis un an de plus pour la finir, donc ça aide pas non plus. Et puis surtout, dans le groupe, à un moment il y avait un graphiste qui s'appelle Eldrick, qui est parti à ce moment-là. Enfin, je sais pas ce qu'il est devenu, j'ai pas eu de nouvelles du tout. Donc j'ai fait une démo sans vraiment graphiste, sans graphisme.
C'est
donc, on voit quand même que c'est pas non plus. Ça manque un peu de ce point de vue-là d'éléments graphiques, quoi.